Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi 17 septembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi se trouve au Tadjikistan pour assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le ministère russe des Affaires étrangères a prévenu qu'il prendrait des mesures contre les États-Unis pour ingérence dans les élections. Contrat sur l'aide sous-marins, le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, dénonce un coup dans le dos de l'Australie. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. La présence du président iranien Ebrahim Raisi à la tête d'une délégation de haut niveau au 21e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai peut être considérée comme faisant partie de la politique étrangère équilibrée, dynamique et intelligente du gouvernement iranien. La 21e réunion au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai se tient à Douchanbé, au Tadjikistan, qui abrite en fait ce sommet ô combien important. Le président Raisi est en visite à Douchanbé pour participer à ce sommet. Le président Raisi qui a eu déjà des rencontres séparées avec son homologue tajik, également avec le premier ministre pakistanais. Le président Raisi avait déclaré plus tôt lors de sa cérémonie d'investiture au Parlement iranien que le monde traverse des évolutions majeures, soulignant que pour protéger les intérêts des nations, il est nécessaire de comprendre les conditions du nouvel ordre mondial et d'établir des interactions stratégiques avec nouvelles puissances émergentes dans une politique étrangère réussie et équilibrée. Il faut abolir les mesures coercitives imposées à la Syrie. La représentation de l'Iran auprès des Nations Unies a réitéré la nécessité de lever les mesures coercitives unilatérales imposées à la Syrie, d'arrêter le pillage de ses richesses et d'accélérer la satisfaction des besoins de son peuple. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, la représentante iranienne adjointe aux Nations Unies, Mme Zahra El-Shadi, a indiqué que le peuple syrien souffre depuis plus de 10 ans de problèmes humanitaires dus au terrorisme et à la guerre qui lui est imposée, désoulignant à cet égard qu'une sérieuse responsabilité politique et morale incombe à la communauté internationale envers la Syrie et son peuple. Mme El-Shadi a appelé à aider la Syrie pour reconstruire ce qui a été détruit par le terrorisme, y compris la restauration amélioration rapide des installations de l'eau, de santé, de traitement, d'éducation et de logement, soulignant que Téhéran poursuivra son soutien à la Syrie pour surmonter les défis auxquels elle est confrontée. Il a également insisté sur la nécessité de la sortie complète des forces étrangères qui se trouvent illégalement sur le territoire syrien, l'éradication des terroristes et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a prévenu qu'il prendrait des mesures contre les États-Unis pour ingérence dans les élections russes. Moscou a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation à l'ingérence occidentale dans les élections parlementaires russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il répondrait fermement à toute ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou ne suspendrait pas les pourparlers avec les États-Unis et établirait des relations basées sur les actions de Washington. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'Australie s'est rendue coupable d'un coup dans le dos en annulant soudainement un vaste contrat portant sur des sous-marins avec la France au profit d'un partenariat stratégique avec les États-Unis et le Royaume-Uni, a dénoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Réagissant à l'annulation du contrat de sous-marins entre la France et l'Australie, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré sur France Info que c'était un coup dans le dos de Paris, dénonçant ce comportement. Cette décision unilatérale et brutale ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump, a-t-il ajouté. Le gouvernement français a aussi exprimé son amertume à l'égard de l'attitude unilatérale, brutale, imprévisible de la nouvelle administration américaine de Joe Biden. Face aux ambitions de la Chine dans la région Indo-Pacifique, l'Australie a annoncé un revirement stratégique soudain via la conclusion d'un partenariat avec les États-Unis et la Grande-Bretagne qui l'amènera à renoncer à un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec la France. C'est vraiment un coup dans le dos, a dit Jean-Yves Le Drian sur France Info. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie, a-t-il souligné encore. Le pass sanitaire désormais est exigé dans tous les lieux de travail en Italie. L'obligation du pass sanitaire sera généralisée à tous les lieux de travail en Italie, aussi bien dans le secteur public que privé, ont annoncé des ministres à l'issue d'une réunion de l'exécutif. Nous étendons l'obligation du pass sanitaire au monde entier du travail public et privé, et nous le faisons pour deux raisons essentielles. Rendre ces lieux plus sûr et rendre encore plus forte notre campagne de vaccination, a expliqué à la presse le ministre italien de la Santé. La Libye a annoncé qu'elle allait rouvrir ses frontières avec la Tunisie à compter de ce vendredi après plus de deux mois de fermeture. Cette décision est le résultat de la rencontre entre le Premier ministre libyen Abdul Hamid Zaïba et le président tunisien Kais Saied en Tunisie il y a quelques jours, a précisé le service de presse du gouvernement libyen dans un communiqué. Eh bien, chers amis auditeurs, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. la Russie met en garde les États-Unis contre l'ingérence dans les élections, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministère russe des Affaires étrangères a prévenu qu'il prendrait des mesures contre les États-Unis pour ingérence dans les élections. Moscou a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation face à l'ingérence occidentale dans les élections parlementaires russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il répondrait fermement à toute ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou ne suspendrait pas les pourparlers avec les États-Unis et établirait des relations basées sur les actions de Washington. Les tensions entre la Russie et l'Occident, en particulier les États-Unis, se sont intensifiées au fil des ans et dans plusieurs dossiers, notamment sur le développement en Ukraine et des allégations sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine. C'est pourquoi Washington a imposé des séries de sanctions à Moscou. Le président de la Douma russe, Volodine, a précédemment déclaré en réponse aux propos insultants du président américain à l'encontre de son homologue russe, que ces insultes visaient en effet le peuple russe et qu'attaquer Poutine était comme attaquer la Russie. De son côté, l'ambassadeur de Russie à Washington a vivement critiqué la large couverture médiatique de la politique étrangère de Moscou dans les médias américains et a affirmé que chaque matin lorsque je me réveille et que je lis des journaux américains et que j'allume la télévision, je suis choqué par cette quantité de fausses nouvelles, de désinformations et de projections sur notre politique étrangère aux États-Unis. Je me demande depuis quand la Russie est-elle devenue un ennemi ou un rival des États-Unis, mais je peux à peine comprendre, s'est-il étonné. La nouvelle intervient un peu après la visite du vice-ministre saoudien de la Défense en Russie et la signature d'un accord militaire qui sont les signaux d'un avertissement tacite aux États-Unis lancé par Riyad, qui aurait trouvé une alternative à son allié. En effet, les relations entre Riyad et Washington se sont quelque peu affaiblies. Par contre, celles avec Moscou se réchauffent. Par ailleurs, les États-Unis ont promis début septembre 60 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine lors d'une rencontre du président américain avec l'Ukrainien Zelensky. Le président ukrainien a rencontré le président Joe Biden dans son bureau ovale où le dirigeant américain a condamné ce qu'il a appelé l'agression russe. L'administration Biden promet 60 millions de dollars d'aide à l'Ukraine, citant l'augmentation de l'activité militaire russe le long de la frontière du pays. Et c'est dans ce contexte que les tensions entre Washington et Moscou se sont nettement intensifiées.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 10 septembre 2021. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mené, jeudi dans la matinée, des frappes aériennes contre les positions des groupes terroristes dans le nord de l'Irak. Dans un communiqué, le CGRI a annoncé que les forces du corps des gardiens de la révolution islamique avait mené une attaque coordonnée de drones, de missiles et d'artillerie contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. Selon ce communiqué, cette attaque est intervenue en riposte au déploiement des équipes terroristes qui cherchaient à déstabiliser en effet les frontières de la République islamique d'Iran. cette attaque est intervenue 2 jours après que le commandant en chef de la force terrestre du corps des gardiens de la révolution islamique avait en effet mis en garde contre la présence de ces groupes dans la région du Kurdistan irakien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette riposte du CGRI, son message et bien entendu les conséquences en effet de ces frappes de haute précision contre les positions des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien. On va y rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À peine 48 heures après la mise en garde du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, le général de brigade Pokpur, une base des terroristes séparatistes kurdes, a été ciblée dans les hauteurs du nord de l'Irak. Il s'agit d'une offensive particulièrement violente impliquant à la fois des unités de drones et l'artillerie lourde du CGRI et qui a débuté vers 6 heures locales ce jeudi matin. Selon cette information, les chasseurs, les drones et les unités d'artillerie du CGRI ont bombardé pendant plusieurs heures les localités de Sitkan, de Chuman et de Haji Omran, où a été visée plus particulièrement une base d'entraînement des terroristes séparatistes de Etka. C'est à partir de cette base, située dans la ville de Jalala, que ces derniers projetaient de lancer d'ici les jours à venir des attaques contre le territoire iranien. Jalala se trouve effectivement à quelques kilomètres de Harir, la super base US à Erbil. Dans un communiqué publié, le CGRI affirme « Les unités balistiques de la force aérospatiale ainsi que les unités de drones du CGRI ont ciblé ce jeudi à partir de 6 heures du matin heure locale la base d'entraînement des terroristes au nord de l'Irak alors que le chef tenait une réunion de guerre. » Cette puissance offensive, balistique contre les terroristes séparatistes qui agissent en lien direct avec les services secrets étrangers, vient d'avoir lieu, alors même que parallèlement 2 autres opérations ont été signalées. Une, en Irak, est menée par les unités de Hajd al-Shaabi, visant à sécuriser la localité d'Al-Tarmemiyah au nord de la capitale Bagdad, où 4 entrepôts d'armes appartenant aux agents d'Aïchistes des États-Unis ont été découverts, Al-Tarmemiyah qui a été le théâtre d'il y a quelques jours d'une violente opération terroriste visant le QG des forces de sécurité irakiennes et faisant au moins 13 morts dans les rangs de ces derniers. Autre opération qui pourrait ne pas être sans rapport avec la frappe balistique 9 septembre du CGRI, une attaque anti-US dans le nord-est de la Syrie, plus précisément à Asakeh. Selon l'OSDH, 2 missiles ont été tirés ce jeudi vers midi contre la base US de Shadadeh au sud de Asakeh, base qui abrite les forces américaines et qui leur sert de lieu de transit des terroristes de Daesh à bord des hélicoptères de la Syrie vers l'Irak. Cette opération sur quoi le Pentagone se tait pour le moment intervient alors même qu'en juillet et en août, les bases américaines sur la rive est de l'Euphrate, Conoco et Al-Omar ont été pris pour cible de roquettes et de drones de la résistance. Certaines informations ont même fait état du retrait des forces US ces derniers jours de 3 de leurs bases à Deir ez-Zor et à Ramishli, dont le fameux Al-Omar. L'axe de la résistance avec en son cœur l'Iran est-il passé à un mode opératoire plus direct contre les États-Unis et leurs agents?
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et mes salutations au professeur d'Ortiguier.
Maître Develet, on s'y attendait en effet depuis quelques jours, depuis cet avertissement du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, cette attaque contre le QG et la base des terroristes dans le nord de l'Irak. Et justement, l'événement a eu lieu jeudi dans la matinée. Les unités de drones et les unités, en effet, de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique ont frappé la base d'entraînement des terroristes dans le Kurdistan irakien. Une première question, au moment où justement des informations faisaient état des tentatives de ces groupes de déstabiliser les frontières de l'Iran, les provinces occidentales de l'Iran, quel est le message de ces attaques coordonnées, Maître Develay?
Ben écoutez, le message est sans appel. C'est un message dissuasif avant tout et une mise en garde sévère contre toute tentative par les services étrangers donc, dont on sait qu'ils opèrent d'une base à Erbil, d'instrumentaliser des groupes, que ce soit des groupes séparatistes ou des groupes ouvertement terroristes, quant à l'instrumentalisation de ces derniers dans ce qui semblerait être ce que le Premier ministre sioniste Bennett a qualifié d'opération la mort par 1000 blessures, 1000 coupures, je devrais dire, suite à sa rencontre avec le président Biden, où après avoir payé, si je puis dire, des compliments et des encouragements de façade quant à la résomption des négociations sur le dossier nucléaire, s'est empressé de déclarer que le plan B, si je puis dire, était déjà sur la table. Et cela passe par une opération visant à déstabiliser la République islamique d'Iran par tous les moyens et sur tous les fronts.
Merci infiniment, Maître Develay, rester avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Codavandé, bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Develay.
Maître Develay l'a rappelé, Monsieur le professeur Dortillier, là il s'agit d'une mise en garde sévère, d'un avertissement, d'un message sans appel, d'une part contre la présence bien sûr de ces groupes terroristes dans le nord de l'Irak, d'autre part contre l'instrumentalisation de ces groupes par le tandem américano-israélien. Alors d'abord, dans quel objectif opéraient en effet ces groupes dans le nord de l'Irak? Et puis, cette opération du CGRI, justement, dans quelle mesure cette opération, aurait un rôle dissuasif contre ces agents estipendiés, justement, à leur maître et contre les services secrets étrangers qui opèrent, on le sait, depuis longtemps, en effet, notamment dans le Kurdistan irakien.
En effet, particulièrement dans le Kurdistan irakien, les organisations étrangères mettent au point, bien sûr, d'une série d'offensives. Et je crois que contre votre pays, contre l'Iran, et il est certain que elles conduisent jusqu'à la mort, bien sûr, leurs mercenaires. Tout semble bien sûr avéré, disons vérifié, que ce groupe était destiné à passer à l'action dans une opération certainement foudroyante, mais qui aurait, disons, eu pour résultat psychologique, en tout cas, plus que militaire, mais surtout psychologique, de montrer, disons, une faiblesse de l'Iran, de dire que si on pouvait attaquer ainsi un pays de l'extérieur, il était possible également de se livrer à des opérations proprement intérieures, voyez-vous. Il s'agissait là d'étapes, à mon sens, de la part des services étrangers, frapper de l'extérieur pour ensuite essayer de pénétrer à l'intérieur, je veux dire à l'intérieur du pays. C'est une option des opérations de subversion, bien sûr. Et disons que la riposte, me semble, de la part de l'Iran, me semble bien sûr légitime. Elle me semble en même temps assez audacieuse, puisqu'elle était, c'est une réaction en profondeur. Ce n'est pas simplement, d'abord c'est une le temps de l'offensive a été choisi avant même que ces groupes ne passent à l'action. Je crois que c'est là une très grande sagesse point de vue stratégique, et en même temps disons que la crainte disons, change de camp. Disons, l'offensive change de camp. Cela aura une, à cela a, comme vous l'avez exposé, que Maître devait exposer, une grande influence également sur le terrain syrien. Et je crois que tout ceci, bien sûr, forme un corps. Je ne veux pas faire une allusion qui n'a rien de polémique, croyez-moi, mais à la présence de notre président, par exemple, à Erbil. Bon, je pense qu'il s'agissait là simplement de contact avec les autorités kurdes locales. Mais chacun sait quand même que, malheureusement, pour son histoire, le peuple kurde a été, que ce soit de la part de l'Union soviétique, il faut bien le dire, maintenant de la part des soeurs américains et soviétiques, les sionistes, utilisés, disons, pour des desseins de défense générale de l'impérialisme. Et il est, je pense, utile que le peuple kurde lui-même, partout où il est, disons, prenne conscience de jusqu'en Turquie, prenne conscience justement de ce jeu dans lequel il est enfermé, et cesse, disons, y compris surtout en Syrie, de jouer un rôle qui est tout à fait à l'encontre de son destin. Je dois dire que la pénétration de ces milieux est très ancienne, je le redis, elle était à l'époque de Staline et autres, et c'est une véritable guerre. Je dois dire qu'en lisant le Times, je terminerai dessus, en lisant une fois le Times of Israel, j'ai vu qu'une femme d'un parti, une politicienne d'un parti qu'on dit extrémiste de droite, ainsi qualifiée bien sûr, fondé de grands espoirs justement sur ce terrorisme. En utilisant le peuple kurde. Et donc, il s'agit là véritablement d'une guerre qui est ouverte, véritablement ouverte, qui est déclarée, disons. Et disons que c'est là ce qui nous réconforte, disons, nous-mêmes ici en Occident, c'est de voir que l'Iran puisse, disons, prendre les devants, vous voyez, et, disons, intimider ses propres adversaires. C'est cela, à mon avis, qui nous fera du bien aussi beaucoup. Car ce terrorisme dont on parle, surtout depuis l'arrivée de transformation en Afghanistan, ne manquera pas d'être utilisé comme une arme de terreur ici, voyez-vous. Je veux dire, ce terrorisme sera utilisé comme une arme politique, voyez-vous, ici même. Et donc, je dirais en deux mots que la riposte de l'Iran a clarifié les choses.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur Dortier, restez avec nous. Maître Develay, la riposte du CGRI, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a eu lieu non loin de la base américaine de Hadir, dans la région du Kurdistan irakien, et simultanément à cette riposte, à cette opération du corps des gardiens de la révolution islamique, alors une autre opération menée par les Hashd al-Shaabi en Irak, et surtout alors une opération contre la base américaine, une base américaine dans la province syrienne de Hasakeh. Donc là, on assiste, selon de nombreux analystes, à une stratégie offensive synchronique contre les États-Unis, contre le tandem américano-israélien et ces mercenaires. Est-ce que on entre, comme disait M. Dortiguier, dans une guerre désormais ouverte, dans une nouvelle phase de confrontation directe et ouverte contre les États-Unis dans la région?
Bah écoutez, oui et non. Je pense que cette configuration est en place depuis un certain temps maintenant. Quelque part, les tentatives de frappe aérienne sioniste contre ce que eux considèrent comme étant des milices pro-iraniennes en Syrie participent de cette guerre asymétrique où effectivement. Pour une action ponctuelle menée sur un site en particulier, la riposte ne se fait pas attendre par le biais effectivement d'une attaque au drone ou d'une attaque balistique ou d'une attaque sur les convois de ravitaillement américains dans d'autres régions. Tout ça participe de cette espèce de guerre dans la guerre, si je puis dire. Et les services de renseignement sont bien sûr hautement important, puisque c'est dans ce contexte précis que le renseignement militaire de la République islamique d'Iran a permis cette frappe préemptive, qui est alors complètement justifiée en droit international, hein, parce qu'elle a été proportionnée, elle a rempli les objectifs, Mais cela laisse entendre aussi au niveau politique, si vous voulez, que l'Irak a quelque part toléré une partie entière de son territoire, à savoir le Kurdistan irakien, pour que ce dernier soit développé et utilisé comme une base au travers de laquelle les services étrangers s'affairent à déstabiliser toute la région. Aujourd'hui, en tout cas hier, c'était les forces du Bijak, mais ça pourrait très bien être des éléments daéchiens la prochaine fois, ça pourrait être aussi des éléments du mouvement, soi-disant le Moudjahidine du peuple. Tous ces éléments, tous ces outils sembleraient avoir une certaine liberté de manœuvre et de circulation qui semble être tacitement tolérée par Erbil. Et donc, c'est dans ce contexte-là où on peut se demander s'il ne faudrait peut-être pas, de la part de Bagdad, attirer l'attention sur cette anomalie, parce que quelque part, Bagdad n'a aucun intérêt politique à laisser pourrir une situation comme celle-ci. Et à un moment donné, je pense que le dossier devra être mis sur la table et géré avec une certaine vigueur, parce que on ne peut pas tolérer que la base du Kurdistan, en tant que telle, puisque c'en est une, serve de source de déstabilisation, empêchant tout processus politique de pouvoir arriver à une résolution qui satisfasse toutes les parties dans la région.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur d'Ortiguier, donc, avec le retrait américain d'Afghanistan, là, bien sûr, selon de nombreux analystes, désormais la priorité de l'administration Biden serait en effet la Chine, la Russie, mais cela ne veut pas dire que là, les Américains et les Israéliens resteraient bras croisés, justement, dans la région du Moyen-Orient, en Asie occidentale, notamment en Irak, en Syrie. Alors, avec ces nouvelles évolutions, justement, à quel scénario pourrait-on s'attendre, notamment en Irak et en Syrie, et au vu, justement, à cette riposte préventive et dissuasive de la République islamique d'Iran contre les groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien, où, comme disait Maître Develay, règne malheureusement alors une anomalie.
Oui, en effet, Maître Develay, je vais reprendre ce que tu as dit. Je me permets de le reprendre pour le souligner, puisqu'il y a une importance. Il a parlé d'une tolérance, en effet, du gouvernement ou d'une certaine administration irakienne envers justement ces groupes-là, et un manque de fermeté, disons, au minimum, dans leur rapport avec les usages, disons, que doivent faire des bases américaines. Ceci est vrai, ceci est tout à fait vrai, et nous craignons, bien sûr, aussi qu'il y ait certaines, disons, complicités, disons, de fait, non pas de droit, mais de fait, entre certains éléments irakiens et, disons, ce qu'on pourrait appeler les soutiens des terroristes. Pour voir les choses de plus haut, je pense que on devrait s'attendre, en répondant ainsi à votre question, à une audace plus importante, plus grande des sionistes et des Américains, surtout du mouvement sioniste aujourd'hui. Je pense que c'est lui qui tire les Américains, comme toujours, et que justement la riposte iranienne a montré que les plans étaient, disons, de la part de ces groupes-là, des groupes kurdes et assimilés, les plans étaient particulièrement, précis, audacieux, etc., déterminés. Et donc, cela montre qu'il y a, disons, un pas politique qui a été franchi de la part de ces groupes terroristes, de ces groupes politiques, disons. Je reprends le terme de politique américano-sioniste. Et je pense que cela est le fruit d'une décision, d'une concertation à un très haut niveau, et donc cela entraînera en particulier sur le territoire syrien, disons, des interventions, disons, plus importantes pour déstabiliser, disons, le gouvernement et, disons, terroriser le peuple syrien. Je crois que, de ce point de vue, on doit s'attendre à plus d'audace, plus de détermination de la part de ces groupes qu'on appelle américano-sionistes, et qui sont effectivement ceux de la politique sioniste elle-même, qui me semblent être beaucoup plus, en tout cas je soupçonne cela, beaucoup plus audacieux, voyez-vous, que l'administration précédente, et ce n'est pas peu dire.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, quelle sera la prochaine phase en effet de l'instrumentalisation, si on peut dire, de ces groupes terroristes par les services secrets américano-israéliens contre la République islamique d'Iran, contre dans la région, au niveau régional, sur le plan régional, contre justement l'indépendance et la souveraineté de l'Irak, mais aussi de la Syrie?
Bien, malheureusement, je pense qu'on doit s'attendre à une intensification de ces opérations. Mm-hmm. N'oublions pas que sur la durée, quelles que soient les administrations américaines, le lobby qui n'existe pas, si je puis dire, obtient toujours gain de cause dans ce qui concerne la politique américaine soudoyée dans la région. Et dans ce contexte-là, on peut aussi évoquer les meetings organisés en banlieue parisienne par les Moudjahidines du peuple sous l'œil bienveillant du pouvoir français, mais aussi la participation à ces meetings de membres des anciennes administrations américaines tels que John Bolton, Rudy Giuliani, des gens associés, il faut être précis, à la mouvance néoconservatrice qui visiblement se retrouve à changer, si vous voulez, de bouger d'un parti à un autre sans que cela n'entache leur volonté d'avancer, si je puis dire, leur désir de déstabiliser la région dans un contexte où tout État fort doit être amoindri, attaqué dans ses fondements mêmes, afin de permettre une certaine politique hégémonique. C'est ça l'objectif, in fine. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Je ne pense pas, à cet égard, que nous allons assister à une déviation ou à quelconque changement. Il faudra s'inscrire dans une approche réaliste, qui soit apte à réagir et anticiper, surtout, toute tentative de déstabilisation. Donc c'est, comme je le disais, plutôt une guerre dans la guerre, où sur la durée, ces politiques seront amenées à démontrer qu'elles n'ont aucune chance de succès, et avec le temps, en espérant que les responsables des pays derrière ces opérations soient amenés à être réalistes et à changer leur attitude. C'est malheureusement la seule chose qu'on peut espérer à l'avenir.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas, monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue depuis Toulouse, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Parole d'experts.
La présence du président Ibrahim Raisi à la tête d'une délégation de haut rang au 21e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai peut être considérée comme faisant partie de la politique étrangère équilibrée, dynamique et intelligente du 13e gouvernement iranien. La 21e réunion au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai se tiendra à Dushanba, la capitale du Tadjikistan. La présence du président Raisi est son premier voyage à l'étranger en tant que président de la République islamique d'Iran. Avec Mikhail Gamandiegorov, analyste chroniqueur à l'agence Observateur Continental, nous avons analysé les objectifs et l'importance de la visite du président iranien à Dushanba.
Oui, je pense que cette visite du président iranien à Dushanbe, justement, donc dans la capitale du Tadjikistan, elle est très importante à plusieurs égards. Tout d'abord, on voit bien que donc cette première visite à l'international d'Ebrahim Raisi se fait donc concrètement dans l'espace eurasiatique et plus particulièrement à ce sommet de l'organisation de coopération de Shanghai, ce qui est très symbolique. Donc la symbolique a toute son importance aussi, sachant que aujourd'hui il apparaît clairement que l'axe prioritaire en matière de politique étrangère de la République islamique d'Iran, entre autres, c'est bien sûr l'espace eurasiatique. Je pense que c'est le premier axe même. Bien sûr, on n'oublie pas les autres axes prioritaires comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, ça a déjà été rappelé. Mais l'Eurasie reste évidemment la priorité, d'autant plus que dans le grand espace eurasiatique, l'Iran et la Russie et la Chine font également partie de ce grand espace eurasien. Maintenant, ce que je pense qu'il est très important de noter, c'est que ce n'est pas un sommet comme un autre. Il y a, d'après les plusieurs sources des pays appartenant, donc des pays membres, des médias des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, en fait état qu'il sera très probable que lors de ce sommet sera annoncé le lancement officiel de la procédure d'adhésion de l'Iran à l'OSCS en qualité de membre de plein droit, sachant que l'Iran y est déjà membre observateur depuis 2005. À plusieurs reprises, il a été déclaré que l'Iran souhaite devenir membre à part entière et rejoindre donc les autres pays membres de l'OSCS. La Russie soutient pleinement cette adhésion, la Chine aussi, et donc et je pense que si les autres membres de l'OSCS pareil. Donc je pense qu'effectivement le moment est venu et je pense que c'est un moment historique, c'est un moment très important pour l'Iran et c'est un moment très important pour tous les pays qui composent l'Organisation de coopération de Shanghai. À un moment de l'histoire très important pour nous tous, parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui à l'ère multipolaire, mais on voit bien que les ennemis, les adversaires, les nostalgiques de l'unipolarité ne veulent rien lâcher. Ils continuent à se référer à un ordre qui n'existe plus, à savoir l'ordre unipolaire. Ils continuent à s'autoproclamer comme étant la communauté internationale qu'ils ne sont aucunement, parce qu'aujourd'hui, si on doit effectivement, encore une fois, faire ce rappel, la véritable communauté internationale, elle se trouve justement en Eurasie, et l'OSS en est le parfait exemple, parce que l'OSS, il faut bien le rappeler, à elle seule, sans même comptabiliser les autres alliés qui se trouvent à d'autres endroits du monde et qui partagent la même vision du monde, des relations internationales, mais rien que si on prend la population totale des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, on est à la moitié de la population terrestre. Ça représente à elle seule la moitié de la population terrestre. Alors maintenant, avec l'intégration de l'Iran, ce poids va encore plus augmenter. Et quand je dis ce poids, c'est aussi bien le poids civilisationnel, le poids démographique, le poids de la puissance militaire, le poids économique, bref. Et bien, sans oublier, bien sûr, de nouvelles opportunités pour la logistique et pour les grands projets qui ont lieu dans l'espace eurasien, notamment à travers les routes, le projet de la nouvelle route de la soie promue par la Chine. Donc, ce qui fait que je pense que cette intégration, c'est une journée très importante. Ce sera un événement très important pour l'OSCS et pour l'Eurasie dans son ensemble. Et je pense que ce sera effectivement un jour très triste pour les ennemis du monde multipolaire et qui sont par la même occasion les ennemis de l'Iran, de la Russie et de la Chine. On les connaît bien, mais on voit bien qu'ils n'ont pas pu stopper ce processus. Et je pense que ça confirme effectivement qu'aujourd'hui, les forces qui font la promotion du monde multipolaire sont plus que jamais en position de force. Et il faut continuer sur cette lancée.
Organisation de coopération de Shanghai, l'heure des grands moments. L'Organisation de coopération de Shanghai organise un exercice militaire antiterroriste conjoint et devra annoncer sous peu la procédure d'adhésion en qualité de membre de plein droit de la République islamique d'Iran. Retour sur ses actualités. Sur le plan sécuritaire, les militaires des pays membres de l'OCS ont entamé les exercices militaires conjoints en matière de lutte contre le terrorisme à Orenbourg, en Russie. Ainsi, les représentants des forces armées du pays d'accueil, ainsi que de Chine, du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Kyrgyzstan, de l'Ouzbékistan, de l'Inde et du Pakistan prendront part à ces manœuvres jusqu'au 25 septembre prochain. Le nom de l'exercice est Peace Mission 2021. Selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense dans le cadre du dit exercice, les contingents militaires des pays de l'OCS travailleront ensemble la préparation et la conduite d'une opération antiterroriste conjointe. L'exercice Peace Mission a lieu une fois tous les deux ans dans le cadre de l'accord entre les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sur la conduite d'exercices militaires conjoints datés du 27 juin 2007. Au-delà du fait que l'interaction militaire et antiterroriste au sein de l'OCS est devenue un sujet récurrent et stratégique, l'aspect géopolitique occupe également une place de première importance au moment où l'Eurasie est devenue le fer de lance du renforcement du concept multipolaire mondial actuel, tout en permettant de donner une image si fortement différente et légitime de la véritable communauté internationale. Et en ce sens, un événement important sera annoncé sous peu au sein de l'OCS. Plus exactement, l'annonce si attendue du lancement de la procédure d'intégration de l'Iran en qualité de membre de plein droit. Pour rappel, la République islamique est depuis 2005 et jusqu'à maintenant membre observateur de l'Organisation internationale eurasienne. En effet, et lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se tiendra les 16 et 17 septembre prochains au Tadjikistan, le début de la procédure d'adhésion de l'Iran en qualité de membre de plein droit sera annoncé, indiquent plusieurs médias appartenant au pays de l'OCS. Si cette perspective, qui est déjà à l'ordre du jour depuis un certain moment, se confirme sous très peu, cela signifiera tout simplement que l'OCS prend un nouvel envol et renforcera considérablement son statut d'organisation internationale majeure, le tout à l'heure des défis existants, notamment de la part des nostalgiques de l'ordre unipolaire, dépassé, révolu, terminé. Cela sans oublier un autre fait majeur lorsqu'on aborde la question de la communauté internationale, celui que l'Organisation de coopération de Shanghai représente à elle seule, sans même comptabiliser les alliés de la philosophie eurasienne à divers endroits du monde, de l'Afrique jusqu'en Amérique latine et même jusqu'en Europe, pratiquement la moitié de la population terrestre. Et donc, bien loin devant la communauté dite occidentale et non pas internationale. Quant à l'Iran, cette confirmation d'un vœu de longue date affirmera tout simplement la réalisation d'un des axes prioritaires de la politique étrangère iranienne contemporaine. Et il constituera une réponse plus qu'efficace aux attaques qui visent non seulement Téhéran, mais également Pékin et Moscou, en qualité des trois principaux adversaires géopolitiques et stratégiques de Washington. Une chose est sûre, le schéma de l'établishment occidental et de certains des régimes lui étant affilié, a tenté de saboter l'intégration eurasiatique à travers la création non seulement d'obstacles, mais également de nouveaux foyers de tension, fera face à l'extrême détermination des civilisations eurasiennes à mettre ses initiateurs hors d'état de nuire. Le tout en étroite coordination, et ne se limitant pas dans cette interaction uniquement au grand espace eurasien.